À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Le podcast.
S'il y a bien une chose qui m'angoisse quand on me parle de lutte contre le changement climatique, c'est l'idée de ne plus pouvoir voyager. Car oui, j'ai grandi dans les aéroports, pas parce que j'allais en vacances à l'autre bout du monde, mais parce que j'y vivais et qu'il fallait bien rentrer, au moins une ou deux fois par an, présenter nos hommages à nos familles. Prendre l'avion a toujours été magique, et sauter dans un train pour n'importe quelle destination, même à un Paris-Thionville dans un TER asthmatique, est porteur pour moi d'une poésie dont je n'imagine pas me passer. Ou plutôt si, je suis obligée de l'imaginer, et ça m'angoisse. Les chiffres sont impitoyables. Les transports, on l'a vu dans l'épisode précédent, représentent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre qui doivent baisser de 5% par an. La mise à disposition toujours plus massive de moyens de déplacement toujours moins chers a abouti à faire de la mobilité un élément central de nos vies occidentales. Évidemment, tous les moyens de transport n'ont pas le même impact carbone. L'avion représente 2% des déplacements, mais 32% de l'énergie consommée et des tonnes équivalentes CO2 produites. Le train compte pour 12% des voyageurs par kilomètre, mais seulement pour 2% de l'énergie consommée et a un bilan carbone pratiquement nul. Quant à la voiture, elle a littéralement façonné notre aménagement du territoire et celui des infrastructures. Alors, viser le net zéro en 2050 signifie-t-il, à horizon 25 ans, la fin du voyage?
Mesdames, messieurs, bonjour, la SNCF, la région Vermont-Alpes, vous êtes la bienvenue à bord de ce TER à destination de Grenoble. Ce train desservira les gares de la Verpillière, Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin-Voiron. Ils sont terminus Grenoble.
Pour évoquer ce sujet inconfortable, j'ai rendez-vous près de Grenoble avec Rodolphe Christin, que j'ai rencontré grâce à une exposition d'art contemporain.
Ce côté conversation, il va apparaître ou...
Oui, d'accord.
Oui, parce qu'en fait, ça va pas être un monologue où
non,
on va couper.
Dans l'épisode, on n'entend pas mes questions, mais parce que je mets des voix off à la place et des commentaires.
D'accord.
Sociologue et écrivain, il a cofondé l'Office de l'antitourisme, dont il a publié un manuel en 2014. Devrons-nous demain, pour des raisons climatiques, réduire nos déplacements et limiter nos destinations? Est-ce, à court terme, la fin du voyage? Mais, en réalité, n'y avons-nous pas déjà renoncé?
L'idée de voyager pour le plaisir, c'est une idée relativement récente, où là, le voyage devient à lui-même sa propre justification. Donc ça, c'est un peu c'est le début du tourisme. Et le tourisme était une pratique réservée à l'aristocratie qui envoyait sa jeunesse faire un tour avant d'arriver aux choses sérieuses de l'existence. Et c'était finalement une manière de parachever une éducation. En allant voir un peu comment ça se passait ailleurs. Mais en même temps, il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, le tour des compagnons, qui était une manière d'injecter dans un parcours professionnel de la création, puisque c'était en allant se confronter à d'autres professionnels d'un métier donné, une manière de parachever une formation et de produire un grand œuvre, pour ainsi dire, un chef-d'œuvre, qui devait combiner à la fois technique et créativité. Donc il y avait une dimension là, initiatique un peu quand même. Donc il y a toujours eu dans cette logique de voyage finalement, l'idée qu'on allait revenir avec une connaissance élargie et qu'on allait pouvoir en faire quelque chose de créatif. Et une chose aussi intéressante, c'était que pour partir pour le plaisir, il faut un excédent budgétaire qui permette de financer son déplacement. Et donc, bien souvent, c'était réservé aux classes les plus aisées.
Ah, je note. Le voyage d'agrément est historiquement une expérience réservée aux riches. Or, aujourd'hui, on entend souvent que le renchérissement du transport, notamment aérien, pour mieux refléter son coût en matière d'impact carbone, serait injuste, car il reviendrait à réserver le voyage aux riches. Est-ce à dire que le voyage accessible à tous ne serait qu'un contresens, une sorte de parenthèse historique permise par les énergies fossiles ? Je sens que cette interprétation ne va pas plaire à tout le monde.
Il ne faut pas oublier aussi que, pour faire des parallèles avec ce qui se passe parfois aujourd'hui, il y avait parfois aussi une dimension thérapeutique au voyage. C'est-à-dire qu'on allait chercher ailleurs
oui,
le bonheur, des conditions de vie plus saines. Donc ça, c'est une thématique qui un peu irrigue ce voyage, qu'on peut dire, d'agrément, de ressourcement, et qui ensuite s'est progressivement diffusée dans la société. Les congés payés 1936 ont été l'institutionnalisation du fait qu'on allait avoir des vacances et qu'on allait être rémunéré pendant ce temps-là.
Les vacances sont sacrées maintenant pour les Français.
Comme c'est bon les vacances et comme il faut les aimer pour vouloir partir.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7.
Des kilomètres parcourus et au bout du voyage, baignade à volonté.
Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois.
Le 20 juin 1936, le Front Populaire accorde 2 semaines de vacances aux salariés.
Un véritable tournant dans l'histoire de notre pays.
Heureux celui qui sait s'arrêter au bord de la route des vacances pour écouter le grand concert des cigales.
On est heureux, national, c'est...
Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions.
Donc ce que ça sous-entend aussi, c'est que ce voyage pour le plaisir qu'on va appeler tourisme est contemporain aussi de l'expansion du salariat.
Tiens donc, les vacances sont indissociables du travail. Ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais autrefois, on ne distinguait pas le travail du reste de la vie. Un paysan ne travaillait pas. Il était paysan, point. Et il restait sur sa terre, comme un artisan dans son atelier. À l'époque, ceux qui bougeaient étaient donc soit des riches oisifs, soit éventuellement des marchands, soit plutôt mal vus.
Bon, alors il y avait aussi là, cette morale chrétienne qui était de dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices, et que donc le temps... devait être occupé de manière assez serrée et structurée pour qu'on n'ait pas à errer de ci, de là. Et ceux qui erraient, justement, étaient un peu les bannis de la société, c'est-à-dire les brigands, les vagabonds, et les gens qui n'avaient pas de statut ou des statuts peu enviables. Donc cette institutionnalisation du temps libre a permis aussi le développement de ce qu'on appellera le tourisme. Même si... Au départ, le temps libre, c'était du temps rémunéré, ce qui n'était pas forcément destiné à être occupé par des départs en vacances. Hein. Il est simplement très vite des organisations syndicales, religieuses, se sont dit « mince, que va faire notamment le prolétariat pendant ces temps de vacances, presque au singulier ?» Il faut les occuper et très vite s'est développée l'idée qu'il fallait proposer des activités édificatrice, on va dire, pour meubler ce temps-là. Le tourisme devait être aussi un temps où on allait apprendre, se sociabiliser sur des paysages différents avec des temps plus ou moins culturels, où on allait pouvoir apprendre des choses que le temps de la vie professionnelle ne permettait pas d'apprendre, et avec aussi un contenu parfois politique, c'est-à-dire qu'on allait aussi se poser la question de ses conditions de vie, avec des temps d'échange liés à une réflexion, je dirais, oui, sur ses propres conditions de vie. Parce qu'on assimile souvent le tourisme au Front Populaire, donc il y a une idéologie plutôt progressiste. Ouais. Mais on a Mussolini, le fascisme et le nazisme ont eu aussi une réflexion autour du tourisme et ont proposé des croisières aux ouvriers qui travaillaient à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le progressisme n'a pas été seul à penser la récupération de sa main-d'œuvre et le ressourcement de sa main-d'œuvre. En tout cas, le salariat, qui aujourd'hui paraît aller de soi et qui a un statut enviable pour beaucoup, au départ, c'est fait quand même dans la douleur, hein, parce que on était dans une société de paysans, d'artisans, plutôt de travailleurs indépendants. Avec la révolution industrielle, il a fallu, pour ainsi dire, les attirer dans le monde industriel, les tenir à un poste de travail. Et donc, la question de proposer des temps de repos s'est posée de manière logique. Et le tourisme a occupé ce temps libre. D'une certaine manière, au départ, avec une dimension émancipatrice. La guerre est passée par là. Ensuite, après-guerre, il a fallu reconstruire. Et je dirais qu'après, il y a eu un deuxième temps de l'expansion du tourisme, dérivé au déploiement de la société de consommation, où là, le tourisme est devenu un secteur économique à part entière, avec une transformation progressive du monde associatif qui s'occupait du tourisme en entreprise. Et là, le tourisme tel qu'il est aujourd'hui a commencé à se préfigurer dans ces moments-là. Donc je dirais dans les années 70, avec l'idée de vendre des prestations touristiques au plus de monde possible. Et l'expansion de la classe moyenne va permettre de multiplier l'offre touristique et de multiplier la clientèle touristique.
Croisière Méditerranée, jusqu'à 400 euros de réduction par couple.
On dit que le club, c'est la mort du couple, alors comme je suis célibataire...
Pardon, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce train hétéroclite ?
Bienvenue au club, je suis Marcus, le chef de village.
Ça, monsieur, c'est un train autocouchette.
Le train autocouchette, c'est deux jours de gagné.
C'est pas possible.
Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans.
Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes.
Paye tous moitié prix.
Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix.
La montagne, ça vous gagne.
La France, on devrait y aller plus souvent.
Sinon, venez quand même dans les montagnes suisses.
La Réunion, l'île intense.
Fram, vous êtes bien en vacances.
Et puis à midi, il y a des réunions sauce madère.
En tout cas, il y a un imaginaire du voyage qui se met en place aussi dans les années 60-70. Avec tous les mouvements de jeunesse, mouvement hippie, la Beat Generation aux États-Unis, où l'idée de prendre la route devient une affaire non seulement philosophique, mais aussi idéologique et contre-culturelle, où on va s'émanciper de la société bourgeoise, des conventions, et on va se livrer à d'autres expériences en prenant la route à des fins indéterminées pour certains, avec des auteurs phares qui vont être Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gary Snyder, qui vont faire de cette pratique nomadique une affaire aussi d'élaboration intellectuelle, d'élaboration littéraire, d'élaboration poétique. En même temps, qu'elle va permettre de se livrer à des expériences inédites d'ouverture de la conscience par la prise éventuellement de drogue. Et il y a donc une effervescence autour du voyage qui se met en place. Mais là, on est dans une logique qui est plutôt contre-culturelle. En fait, contrairement à ce que certains auteurs pensent, le tourisme n'est pas une émancipation du travail. C'est au contraire plutôt une manière d'y rester, d'y retourner frais et dispo. Alors que dans la Beat Generation, on arrêtait de travailler ou alors on prenait la route à des fins indéterminées, on prenait les petits boulots qui se présentaient, mais d'une manière absolument pas pérenne, c'est-à-dire que c'était simplement un moyen de subvenir à ses besoins.
J'avoue que je n'avais jamais vu le tourisme comme une manière de rendre la main-d'œuvre fraîche et dispose pour faire tourner les entreprises du capitalisme triomphant. Et finalement, il y a du vrai dans cette interprétation. On part en vacances loin du travail et on en revient reposé, prêt à se donner à fond pour son job. En tout cas, voilà pour ceux qui jouent le jeu. Mais ceux qui refusent, que ce soit la Beat Generation dans les années 70, ou la génération Z ou Millennials ou ce que vous voulez aujourd'hui, eh bien, ils refusent de cautionner le système. Et comme leurs aînés aux cheveux longs, une partie des jeunes d'aujourd'hui préfèrent la grande démission, les petits boulots à court terme, plutôt que la prison dorée du CDI. Faire le parallèle est décidément très intéressant.
Que reste-t-il aujourd'hui, par exemple, de cette logique contre-culturelle ? On peut se dire que le voyage est quand même devenu une espèce de norme de comportement qui n'a plus grand-chose à voir, me semble-t-il, avec une dimension forcément subversive ou même la dimension créatrice du voyage, je pense qu'elle a un peu passé à la trappe. Et il y a une forme de mise aux normes du déplacement à des fins d'agrément, d'enrichissement personnel, qui s'est beaucoup transformé en une espèce de recherche de divertissement, de recherche de détente, qui aujourd'hui me semble largement dominante dans les pratiques touristiques.
Le divertissement. C'est une évolution sociétale sur laquelle Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casly insistent dans La France sous nos yeux. Si je résume, depuis les années 80, la France a fermé ses usines et ouvert des parcs d'attractions. Comme un symbole, les usines de Renault-Billancourt ont fermé en mars 92, quelques jours avant l'ouverture d'Euro Disney. Se divertir est donc devenu la norme. Et par un renversement un peu étrange, ce sont les vacances qui sont devenues l'objectif de l'année, et non plus la réalisation professionnelle au travail. Aujourd'hui, Disneyland accueille 15 millions de visiteurs par an, c'est deux fois plus que le Louvre. Et la France est devenue la première destination européenne pour les parcs de loisirs.
Donc ce déploiement du tourisme est aussi la conquête d'une clientèle touristique la plus large possible, elle a pu se faire parce que l'expérience du déplacement a été relativement neutralisée en termes de charges physiques, mentales, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, mais le voyage en tant que tel, c'est aussi une épreuve fondée sur l'anxiété, du rapport à l'inconnu, du rapport à des cultures qu'on ne maîtrise pas, de l'exposition à ce qui va arriver, sans qu'on sache vraiment ce qui va arriver, justement. Donc le voyage, c'est aussi une tension entre l'aventure et la planification. Et je dirais que le tourisme a mis en avant la capacité de planificatrice de l'Occident, sa capacité au calcul,
la maîtrise du risque,
la capacité à calculer, prévoir, planifier. Et tout ça a reposé aussi sur l'usage de technologies motorisées et donc dépendantes d'énergie fossile et sur la mise en place d'infrastructures au niveau planétaire qui permettent de sécuriser les déplacements, de fiabiliser le temps de déplacement, qui fait qu'aujourd'hui, on peut partir un mardi au bout du monde et se dire que mercredi, dans 15 jours, on sera rentré et que jeudi, on pourra assister à telle ou telle réunion. Donc tout ça suppose quand même un aménagement des territoires spécifiques, qui n'est pas sans conséquences environnementales, dans le sens où tous ces territoires qu'on aménage pour les rendre accessibles, pour les rendre accueillants pour le plus grand monde, pour conséquence notamment de transformer les territoires originels selon des processus qui sont aussi bien souvent standardisés et qui font qu'il y a une espèce de parfois de sentiment de déjà-vu où qu'on soit, où on se retrouve dans des standards qui sont identiques.
Standardisation de l'expérience, effacement des aléas du voyage. On trouve parfaitement normal qu'un avion Paris-Bangkok se pose à l'heure prévue, à la minute près, alors qu'il a parcouru plus de 10 000 km. Et on sait que, si on y tient, on pourra aller boire un café latte chez Starbucks sur Sutton Road, avant de dormir dans un hôtel aux normes tout à fait occidentales. Ne nous y trompons pas, les standards internationaux sont les standards occidentaux. Nous avons imprimé notre empreinte sur le monde, ce n'est pas le monde qui s'imprime sur nous quand nous voyageons. Le tourisme reflète donc sans surprise l'état des rapports de force économiques mondiaux, et aussi leur évolution. Il suffit de se rendre aux Galeries Lafayette à Paris, où les vendeurs sont tous chinois, afin de satisfaire la clientèle asiatique, pour s'en apercevoir. Et c'est grâce à l'explosion du transport aérien international depuis 30 ans que cette standardisation des offres aux voyageurs du monde entier a pu se développer aussi massivement.
Ce qui est sûr, c'est que le développement de l'industrie touristique s'est fait grâce à l'avion et grâce à la capacité d'aller loin, rapidement, pour multiplier les séjours courts et fréquents dans l'année. Le low cost a permis de le vendre à plus de monde possible, sachant que ça n'a pas permis forcément de le vendre aux classes les plus modestes, mais c'est plutôt, ça a plutôt permis, les études le montrent, à la classe moyenne d'en profiter plus.
C'est ça.
Donc il n'y a pas du tout eu un effet de, entre guillemets, parce que j'aime pas utiliser ce mot, de démocratisation du voyage grâce au low cost. Je dis, j'aime pas utiliser le mot de démocratisation parce que pour moi, la démocratie, c'est la capacité de participer aux décisions qui nous concernent au plan politique, beaucoup plus que la capacité à consommer de tout par n'importe qui, n'importe comment. Mais que le tourisme utilise en permanence pour se justifier. Parce que cette industrie du tourisme a longtemps bénéficié d'un consensus assez fort sur sa dimension bienfaitrice pour l'humanité, on va dire. Le tourisme permettait aux pays pauvres de s'enrichir, permettait une meilleure compréhension entre les cultures, permettait de protéger l'environnement parce que le tourisme, c'était découvrir de beaux paysages et donc pour les découvrir, on allait les protéger. Donc Pendant longtemps, y compris dans les milieux écologistes ou un peu plus critiques à l'égard de la société industrielle, même le tourisme avait ce côté consensuel et sur sa dimension vertueuse. Ce consensus-là, il s'est fissuré assez récemment, mais il a aussi largement contribué à cette légitimation des pratiques touristiques, cette normalisation, sans s'apercevoir forcément que le tourisme avait un impact, y compris en termes de santé de la planète. C'est l'usage d'un avion relativement bon marché qui a permis aux gens de partir plus souvent, moins longtemps, et sur des destinations lointaines.
Tourisme et secteur aérien sont presque indissociables. Ce sont les progrès techniques de l'aviation qui ont rendu accessibles des destinations nécessitant autrefois des jours, voire des semaines de voyage. L'absence de fiscalité sur le carburant, la multiplication du nombre des compagnies aériennes, l'augmentation continue de la taille et de la puissance des avions, autant de facteurs qui ont favorisé ce mode de transport au détriment du chemin de fer et des paquebots transatlantiques de l'après-guerre. On a parlé dans l'épisode précédent de l'interdépendance réciproque entre business pétrolier et secteur des transports. Il en va de même entre l'industrie touristique et le secteur aérien. Les acteurs du tourisme s'appuient par exemple sur les liaisons par avion pour développer des logiques de croissance internationale, gommant partiellement le caractère saisonnier du tourisme franco-français. Ainsi, c'est bien l'offre touristique packagée, avion plus prestations sur place, qui suscite la demande, laquelle n'aurait pas existé, ou certainement pas avec cette intensité, sans ces efforts sur l'offre. Et c'est ainsi que les Alpes françaises se retrouvent pleines d'apprentis skieurs brésiliens au mois de janvier.
Les concepteurs de produits touristiques sont en train d'essayer d'imaginer des gammes de prestations qui vont permettre d'attirer des clientèles variées, qui vont pouvoir se succéder et qui vont pouvoir se décliner tout au long de l'année, non pas seulement l'hiver ou l'été, ou avec parfois des aménagements absolument étonnants. Non, mais du style créer des zones de glisse plastifiées, des choses comme ça, quoi. Hein. Donc là, on a beaucoup parlé de tourisme.
Oui, exactement.
Après, le voyage, qu'est-ce que c'est finalement? De mon point de vue, le voyage, c'est la dimension plus anthropologique et philosophique même, liée au fait de se déplacer et de se confronter à l'inconnu, avec tous les effets que ça peut avoir au plan intellectuel, psychique, physique même, et le chamboulement que ça peut avoir dans l'économie psychique presque d'un individu. Et donc là, on reprend aussi avec le pôle créatif du voyage, c'est-à-dire que ça peut être une dynamique de création de soi, mais aussi d'aborder de nouveaux contenus de la conscience par le contact avec l'altérité. Donc le tourisme aurait pu être un moyen de cultiver ça, sauf que le tourisme a pris d'autres voies. Je pense que dans le tourisme social et la dimension d'éducation populaire, il y aurait pu avoir un travail autour de cette dimension plus philosophique du voyage. Mais en fait, dès lors qu'on cherche à vendre du voyage au plus grand monde possible et de vendre le plus de lieux possible au plus de monde possible, il a fallu gommer, neutraliser certaines dimensions liées aussi à la rugosité de la confrontation à l'altérité pour pouvoir multiplier les offres et rendre le voyage relativement facile. Alors, il y a tout l'aspect organisationnel dont on a parlé avec l'implantation d'infrastructures qui permet de gommer tous les aléas à la fois liés à l'espace et au temps de la pérégrination. Mais il y a eu aussi tout cet aspect de neutralisation de la charge émotionnelle, intellectuelle, et parfois qui est un peu éprouvante. Hein. Il y a une dimension d'épreuve dans le voyage. Mais le tourisme, finalement, a contribué, alors plus ou moins volontairement d'ailleurs, à anéantir cette dimension, de mon point de vue, cette dimension du voyage. Et c'est pour ça que je dis souvent... Le tourisme est un anti-voyage, c'est-à-dire que c'est devenu une forme de consommation et de prestation de services comme une autre.
Et bam, un crochet du gauche dans la poésie du voyage. Nous nous leurrons sur ce que nous faisons quand nous voyageons. Ni dimension initiatique, ni confrontation à l'altérité. Nous consommons du divertissement standardisé en croyant vivre une expérience de l'ailleurs. Restent les paysages différents et les langues étrangères. Et encore, Nous voilà bien ennuyés quand le concierge du Backpackers de Manille ne parle pas anglais.
Et après, il y a toutes les logiques de spécialisation des territoires touristiques qui se mettent en place, où finalement la rencontre avec l'autochtone devient complètement marchandisée.
Chauffe la gazelle, c'est pas cher, 1000 dirhams.
1000 dirhams pour ça?
Vous avez combien de babouches ici?
On compte pas, hein. Il y en a plusieurs, il y a des milliers.
C'est combien la statue là?
30 000 francs.
Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marchander.
Tu l'as fait à combien la statue?
J'ai dit 30 000.
Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça?
Non, 30 000.
20 000 francs?
Non, 30 000.
25 000?
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Et le cœur du problème, il est là, hein, il est dans cette marchandisation touristique qui est presque au centre de la définition du tourisme. Hein. Comment aujourd'hui, pour moi, le tourisme, c'est d'abord une prestation marchande, un séjour marchand, pour lequel, par définition, on paye. Si bien qu'on est pris dans des logiques fonctionnelles, desquelles il est très dur de s'affranchir, parce que bien souvent, si vous ne voulez pas être un touriste, pour l'indigène, entre guillemets, puisque vous êtes là, puisque vous n'habitez pas là, c'est que vous êtes un touriste, et donc on va vous considérer comme quelqu'un à qui on va essayer de vendre quelque chose. Donc le rapport, il est assez biaisé, hein, et donc il est très dur aujourd'hui de s'affranchir de cette relation marchande liée au fait de se déplacer, quoi.
Devant ce constat peu réjouissant, faut-il alors s'inquiéter des restrictions potentielles qui pèseront demain sur nos envies d'ailleurs?
Ce qui est certain, c'est qu'au regard du changement climatique, cette propension à se déplacer pour un oui, pour un non, en utilisant des technologies reposant sur l'utilisation d'énergies fossiles, elle n'est pas viable. Et on commence aujourd'hui à en avoir la perception très concrète. Hein, tout simplement parce que nos territoires sont susceptibles demain ou aujourd'hui même d'être soit pris par la sécheresse, pris par des inondations. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se dérègle et qu'on ne va pas pouvoir nier bien longtemps. En même temps. On va se souvenir que la période de pandémie et la période de confinement a vu émerger beaucoup de tribunes disant que le monde d'après ne pouvait absolument pas continuer comme le monde d'avant. Beaucoup d'agents du monde touristique se sont mis à écrire sur la nécessité de transformer l'industrie touristique. Un sociologue comme Jean Viard parle de l'an zéro du tourisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les signaux de l'industrie touristique sont au vert. Les bateaux de croisière sont en commande, des avions sont en commande, tout repart, tout est reparti comme avant.
Comme avant, vraiment. Je descends illico aux archives pour regarder les statistiques. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, les touristes internationaux ont été plus de 900 millions en 2022. C'est deux fois plus que les chiffres enregistrés en 2021. Même si la fréquentation d'avant Covid ne devrait pas être retrouvée avant 2023. L'Europe a quand même atteint près de 80% des niveaux d'avant la pandémie, avec 585 millions d'arrivées en 2022. Et à Paris, la fréquentation hôtelière est déjà revenue au niveau de 2019. Côté trafic aérien, même dynamique. Les dernières analyses de l'Organisation pour l'aviation civile internationale montrent que la capacité en siège du transport aérien et le nombre total de passagers dans le monde ont atteint environ 80% du point culminant de 2019.
Donc la question, elle est terrible, parce que soit on est en capacité de réfléchir à ce que ce besoin de tourisme signifie, y compris sur les carences de nos vies quotidiennes, parce qu'on peut voir ça comme un symptôme. Hein, les gens qui partent en vacances pour essayer de trouver un équilibre dans une vie qui est considérée comme harassante la plupart du temps, et finalement le bol d'air des vacances devient une espèce de manière de tenir le coup le reste de l'année. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre latent lié au côté invivable, réel ou perçu, qui fait que le départ est devenu une espèce de manière d'équilibrer sa vie à la fois en allant compenser un manque lié à sa vie quotidienne par peut-être plus de nature, plus de convivialité, moins de travail, et que tout ça est devenu une nécessité, pour ainsi dire. Et lorsqu'on ne peut plus y avoir accès, lorsqu'on ne peut plus se déplacer comme on l'entend, ça devient effectivement très anxiogène.
Et si le voyage n'était finalement qu'une fuite, loin de vie dont on refuse d'admettre le côté insensé? Vivre dans des environnements pollués et agressifs, travailler de longues heures, 5 ou 6 jours sur 7, manquer de place dans son logement? Non, je ne parle pas des favelas brésiliennes ou des townships d'Afrique du Sud, qu'on opposera volontiers à cette description peu reluisante de nos vies modernes. Oui, nous avons, du moins pour la majorité d'entre nous, du confort, du chauffage, un toit sur la tête, des revenus, des biens matériels. Mais sommes-nous pour autant heureux dans ces vies? Souvenez-vous comme l'annonce du confinement a précipité tous ceux qui le pouvaient loin des grandes villes. Regardez comme le nombre de burn-out flambe, comme les services de pédopsychiatrie surchargés sonnent l'alarme. La consommation d'antidépresseurs est au plus haut dans les pays dits développés. Alors, voyageons-nous pour oublier que nous passons à côté de nos vies.
Donc soit on arrive à réfléchir, et le confinement et ce qui s'est passé avec la pandémie aurait pu servir d'occasion. On aurait pu réfléchir et ça aurait pu peut-être déboucher sur des projets politiques intéressants. Ça n'a pas été fait, donc le risque aujourd'hui, il est dans une espèce de surabondance de normes qui vont nous contraindre. Et la pandémie a été peut-être aussi un laboratoire, sans parler du tout de complotisme ou de je ne sais quoi, hein, mais en tout cas un laboratoire sur la mise aux normes et la contrainte qui risque de nous tomber dessus dans les années à venir. Donc moi, je crains beaucoup ça. Cette contrainte, peut-être qu'elle va se traduire par un certain nombre de voyages en avion autorisés, peut-être par des sites qui ne vont plus du tout être accessibles ou être accessibles sous conditions comme on commence à le voir ici et là. Que l'accès à des espaces publics soit contrôlé à ce point-là avec les quotas ou avec les droits d'accès payants, ça pose question, ça devrait poser question.
Oui, cela pose question. Et ce que dit Rodolphe fait écho au propos de Timothée Parik dans l'épisode 8 sur la décroissance. Voulons-nous subir la réduction de nos déplacements ou l'organiser, l'accompagner?
Et en même temps, j'étais récemment invité à parler sur la communication touristique responsable devant des acteurs du secteur touristique. Et personne n'imagine, semble-t-il, que cesser la promotion du départ pourrait être une solution toute simple.
Cesser la promotion du départ. Simple.
Basique.
Mais probablement efficace. On a envie de partir parce qu'on a des pubs sous le nez et que les destinations se livrent à une communication effrénée pour attirer toujours plus de vacanciers. Sauf que le maire de l'île d'Aix, par exemple, a réclamé récemment à l'office du tourisme du port de La Rochelle le démarketing de son île saturée de touristes l'été. Démarketing. Voilà une notion qui n'existait pas quand je faisais mes études en école de commerce. Elle va avec celle de désinvestissement, dont on a parlé avec Karim Megherbi. Comment désinvestir, démarketer, délimiter, décélérer? Finalement, comment décroître? Comment non pas développer les offres vertes, mais arrêter, interdire les offres noires? On n'a pas encore bien défini, et encore moins expérimenté, les méthodes pour y arriver.
Alors, bien souvent, on arrête de faire la promotion de certains lieux, et puis on va faire la promotion de lieux plus secondaires, ou alors on va éventuellement créer des lieux touristiques attractifs, ex nihilo pour ainsi dire, de manière à créer des offres alternatives et à mieux réguler les flux, et donc ça devient une manière de lutter contre tous les excès du surtourisme, où les acteurs vous disent il faut en fait mieux répartir les flux sur les territoires, et non, c'est pas non plus une question de décroissance des flux, c'est uniquement du management de la répartition, quoi. Finalement, c'est comment répondre à trop de tourisme par encore plus de tourisme, mais sûr, en multipliant les lieux.
Mais c'est complètement crétin.
Mais c'est aussi, en termes d'aménagement du territoire, c'est aussi à cesser de rendre des lieux trop accessibles. On crée des itinéraires pour aller à peu près partout, pour tous les moyens de transport. Aujourd'hui, il y aurait des moyens relativement simples qui seraient de désaménager le territoire. Moi, je dis souvent, il faut désaménager le territoire plutôt que l'aménager. Donc le démarketing, il y a aussi en montagne du débalisage aussi, d'itinéraires, oui. Où on va dire oui, mais c'est uniquement ceux qui ont la condition physique qui savent lire une carte. Et, pourquoi pas. Et on redonne peut-être une valeur au voyage, parce que du coup, il faut avoir une espèce de grande motivation pour aller à certains endroits qui vont permettre de dissuader certaines personnes d'y aller. Et c'est pas grave.
Finalement, ce que dit Rodolphe, c'est que le voyage doit se mériter, et pas au sens financier du terme. Voyager demain redeviendrait donc une sorte d'acte hors norme, alors qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une forme de preuve sociale de réussite, non ?
Il y a probablement aussi de ça, c'est-à-dire que c'est devenu un signe de réussite, finalement, de réussite, parce que ça veut dire qu'on a les moyens de partir en vacances, et on le voit bien dans nos environnements professionnels. Lorsque c'est le temps des vacances, la première question qu'on vous pose, c'est « Où est-ce que tu es parti ?» Donc oui, il y a une question de standing, mais pas uniquement à mon sens. Il y a aussi une question liée aux carences de nos vies quotidiennes que le départ va aller compenser. Et finalement, le départ est devenu, fait partie de notre économie psychique, c'est-à-dire que sans cette possibilité, ne serait-ce que la possibilité, sans forcément le faire, mais savoir qu'on peut le faire, c'est important. Mais ça peut se comprendre aussi, parce que la liberté de mouvement, c'est quand même une liberté fondamentale.
Si je comprends ce que veut dire Rodolphe, il faudrait que l'on agisse sur les pesanteurs de nos vies urbaines pour avoir moins besoin de nous en échapper via le voyage. Et donc, moins subir les potentielles restrictions de déplacement liées aux impératifs climatiques. Mais si on n'y arrive pas, il se passera quoi ?
Le risque de ça, de cette incapacité de se transformer à la source de nos modes de vie, c'est qu'on risque d'avoir des contraintes à l'aval extrêmement fortes et qu'on arrive dans un espèce de système alors doucement totalitaire pour des justifications à la fois de sécurité, de santé de soi-même, mais aussi de santé environnementale, et que du coup la question du bien-être devienne une espèce de justification pour entrer dans un monde où on va être extrêmement contrôlé.
Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Cette image de la gare Saint-Charles vide pourrait perdurer au-delà du 11 mai.
Restrictions sur les trajets.
Un couvre-feu est désormais imposé entre 23h et 6h du matin.
Je suis cloué dans un appartement de deux pièces n'ayant rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre ce qui se passe chez les voisins.
Seuls les déplacements indispensables sont autorisés, comme faire des courses de première nécessité, se rendre à son travail ou encore pour les soins urgents. Et les vacances de Pâques qui débutent vendredi soir ne changent rien à la donne.
Et ça, par incapacité de poser la question de la transformation à la source.
Alors, comment repenser nos déplacements avec tous ces sombres paramètres ? Est-ce qu'il plane vraiment une menace sur le voyage, ou plutôt sur des modalités assez perverties ? Finalement, repenser le voyage ne revient-il pas, en quelque sorte, à redonner sa valeur au trajet ?
Ce qu'on est en train de pointer, c'est l'usage de technologies du déplacement, mais aussi lié à une conception du temps, hein, parce que finalement, c'est l'idée qu'il faut faire les choses de manière rapide, que le temps soit occupé de la manière la plus maximale possible, et que finalement, on n'ait jamais d'aléas qui soient de nature à désorganiser nos emplois du temps, et notamment toujours en lien bien souvent avec le travail. Mais l'idée serait de retrouver un espèce de sens du voyage en voyageant autrement, peut-être en utilisant des moyens beaucoup plus doux pour se déplacer, donc en se déplaçant peut-être plus longtemps, moins souvent, mais peut-être aussi en prenant plus de risques au plan social, professionnel. C'est-à-dire que si on ressent le besoin de voyager, on va peut-être sacrifier une partie de sa carrière professionnelle pour se dire, ben voilà, je vais prendre un an et puis je vais partir au long cours en utilisant le train, des bateaux, la marche à pied, le vélo, le cheval, que sais-je. Mais en tout cas, plus de moyens de locomotion qui émettraient des gaz à effet de serre, mais de revenir à une autre manière d'insérer le voyage dans sa vie personnelle.
Séduisant, je trouve. Moi, j'adorerais partir un an en prenant mon temps. Un peu comme ce riche Américain qui avait choisi de descendre de Paris à Biarritz en calèche au début du XXe siècle, plutôt que d'utiliser le train. Il avait mis 40 jours. Sauf que ce qui m'ennuie dans cette idée, c'est que je sais déjà qui va pouvoir se le permettre. Eh bien, ceux qui ont les moyens de ne pas travailler. Bientôt, voyager lentement deviendra du dernier chic et sera réservé aux gens tout aussi chics et riches. Finalement, les mutations du voyage n'échappent pas aux enjeux d'inégalité sociale soulevés par la transition de notre modèle. Soit les plus riches pourront continuer à voyager comme avant, même avec un prix des billets d'avion reflétant les restrictions de déplacement, soit, au contraire, ils voyageront à la nouvelle mode, lentement, pendant des semaines ou des mois. Et dans tous les cas, voyager redeviendra le privilège d'une minorité.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut aller jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire qu'il faut arrêter la promotion tous azimuts de toutes les destinations
sur des formats
week-end. Il faut être cohérent. Aujourd'hui, on est vraiment pris, on est à la croisée des chemins. Hein. C'est soit on arrive à, finalement, c'est une question politique, à préserver la démocratie et à modifier nos modes de vie à la source, soit on risque d'entrer dans des schémas beaucoup plus autoritaires, avec des contraintes beaucoup plus fortes, venues d'en haut, et qui vont nous imposer de ne pas faire telle ou telle chose, ou de ne pas aller à tel ou tel endroit. Moi, je pense que la question, elle est là aujourd'hui. Il y aurait moyen, sans doute, d'être innovant politiquement, en imaginant un mode de vie qui soit beaucoup plus viable au plan écologique, et beaucoup plus attractif au plan politique, qui donne envie. Alors que là, on a l'impression qu'on est en train de basculer dans un truc, alors on parle souvent d'écologie punitive, mais en tout cas un régime de restriction. On confond une sobriété joyeuse, pour parler comme les décroissants, avec une sobriété qui est bien souvent synonyme de restriction.
Et voilà, encore un témoin qui me dit la même chose. Qu'il faut réussir à rendre un autre mode de vie désirable, souhaitable, enviable, sans qu'il soit synonyme d'ostentation et de surconsommation. Mais je me heurte toujours au même mur. Comment faire ? Comment faire comprendre qu'être, ce n'est pas avoir ? Comment démontrer que changer, ce n'est pas régresser ? Autrement dit, comment faire de l'écologie un comportement collectif volontaire avant que les gouvernements ne mettent en place des restrictions d'ampleur de façon autoritaire ?
Pour être le plus simple possible et le plus compréhensible possible, il y a l'écologie scientifique qui étudie les écosystèmes, il y a l'écologie politique qui pense les conditions d'une vie sociale la moins préjudiciable pour les écosystèmes. Et puis il y a l'écosophie qui serait la dimension sensible et philosophique du rapport à la nature qu'on aurait perdu dans tout un processus d'urbanisation, d'industrialisation, et qui sans ça permettrait d'avoir un rapport beaucoup plus sensible au vivant, et on l'aurait perdu. Et je pense que dans le voyage aujourd'hui, dans le recours au voyage, il y a cette idée de vouloir retrouver de la nature, se mettre au vert, être en plein air. Quand le confinement a eu lieu en ville, il s'est passé des choses assez intéressantes, c'est-à-dire des gens ont redécouvert la présence d'animaux.
Sur le bitume, il règne désormais en maître.
Quand les hommes abandonnent les villes, les animaux sauvages occupent la place.
Des sangliers dans les rues de Barcelone.
Un troupeau de chèvres envahit la paisible bourgade de Llandudno au Pays de Galles.
Un puma égaré dans ce lotissement au Chili.
Une nature qui reprend tout simplement ses droits.
Des animaux sauvages moins exposés aux activités humaines et donc à la mortalité.
Et cette écosophie me semblerait une manière de redonner du sens, du contenu, de la conscience et de la poésie à notre rapport au vivant, humain et non humain. Parce que je pense qu'il y a une dimension poétique dans tout ça aussi. En termes de voyage, de tourisme, on parle beaucoup d'économie, on parle d'écologie, mais il y a quand même une dimension poétique qui est un rapport au monde régénéré où l'intensité des perceptions soit forte, et l'exotisme, c'est ça aussi. Hein. Il y a une forme de jouissance exotique, comme il y a une forme de jouissance esthétique devant une œuvre d'art qui nous chamboule, qui nous fait voir le monde autrement, et ben dans le rapport exotique au réel, il y a aussi ça. Il y a aussi voir le monde comme on ne l'a jamais vu, la sensation des lumières, des couleurs, des odeurs. Tout ça, c'est important dans le rapport exotique au réel. Ce qui se joue aussi dans le rapport à la nature, c'est un rapport à l'exotisme. C'est-à-dire que dans des modes de vie très urbains, très enfermés, très climatisés, il y a un manque de ce rapport un peu plus élémentaire à la réalité que le voyage va chercher, de manière plus ou moins confuse, à retrouver. Et donc ce concept d'écosophie, oui, me semble important à réfléchir, à défricher, pour peut-être retrouver un rapport un peu plus conscient au monde qui nous entoure. Le voyage devrait être un moyen de se rapprocher du monde, finalement.
Au fond, je me demande si je ne me suis pas trompée d'angoisse. J'avais peur que la nécessité de diminuer nos déplacements ne soit synonyme d'une restriction sur les voyages. Mais finalement, le voyage comme je le conçois a déjà disparu, dévoré par les impératifs économiques de son industrialisation. L'enjeu réside donc plutôt dans la manière d'accompagner la fin du tourisme de masse, sa démarchandisation et dans le caractère démocratique des décisions qui devront être prises. Toujours cette question, allons-nous nous donner les moyens de choisir ce que nous voulons faire ou devrons-nous le subir de la part d'une forme de dictature du bien-être écologique qui devra taper durement, parce que trop tardivement, sur nos libertés. Ce à quoi nous devons mettre fin n'est donc pas le voyage, mais plutôt ce besoin maladif d'évasion lointaine comme antidépresseur de nos vies trop stressantes, trop cadencées, trop technologisées, trop éloignées de nos aspirations profondes. Puisque nous devons être plus sobres dans notre utilisation des transports, profitons-en pour redonner au voyage sa fonction initiale, la découverte, l'initiation, le dépaysement dans un tempo lent, loin des prestations standardisées du tourisme de masse. Il est plus que temps de peindre le monde sur soi, et non plus soi sur le monde.
Enquête d'avenir. Le podcast.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.